RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, les grandes gueules, c'est tous les jours, c'est en direct, c'est avec vous, c'est au 32-16 que ça se passe, la suite des réjouissances dans les GG. Tout à l'heure à 11h20, on a un GG 7 et match sur les conducteurs âgés. Doit-on leur faire repasser le permis? Oui pour Jérôme, non pour Sarah et Mehdi. On en parle après l'accident d'un homme de 80 ans qui a percuté 6 personnes dans une zone piétonne. Il y avait une brocante. C'était en Bretagne. Lui-même ne se souvient pas de ce qui s'est passé. Il dit avoir perdu le contrôle de son véhicule. 11h20 pour en parler dans les GG. On vous a proposé, comme tous les jours, à vous de choisir pour 11h, deux sujets de discussion. Vous nous dites celui que vous voulez que nous abordions ensemble au 32-16. Le gouvernement qui va trancher sur peut-être un après-midi sans chasse, un dimanche après-midi sans chasse, par exemple à partir de 14h, plus question de chasser. Ou est-ce que vous voulez que l'on parle de la France moche, la France des périphéries commerciales? Là aussi, le gouvernement va en terminer avec les grandes enseignes, avec les dépôts, avec les concessionnaires automobiles, et voilà, ce qui entoure les villes. Donc voilà, vous votez, vous allez sur internet rmc.fr, vous nous dites de quel sujet vous voulez qu'on parle ensemble. Tout à l'heure à 11h20 dans les indiscrets GG, la motion de censure, un coup de théâtre inutile à l'Assemblée nationale, on en parlera. En attendant, évoquons les déserts médicaux. Là encore, c'est un dossier qui est sur la table du gouvernement. Il manque 6000 généralistes dans les campagnes. Peut-être qu'aujourd'hui, la solution, c'est de les salarier. 32-16 pour en parler dans les GG.
RMC, les grandes gueules.
On a tout essayé. Quoi faire d'autre que maintenant passer au stade de la régulation? La France, c'est du médecin, ça c'est absolument clair. C'est la seule profession médicale qui ne soit pas régulée. Ce n'est pas contre les médecins. C'est pour défendre les 9 millions de concitoyens qui n'ont plus accès aux soins.
Avant de passer aux mesures obligatoires, je pense qu'on n'a pas épuisé le champ des mesures incitatives de toute nature. Que ce soit la mise à disposition des locaux, que ce soit une rémunération garantie importante, c'est-à-dire faciliter l'installation au maximum. Il faut essayer de tout faire pour ne rendre pas les choses obligatoires.
Voilà, vous avez entendu les représentants, là, l'avocate Maître Lepage qui représente les patients qui veulent lutter contre les déserts médicaux. Vous avez entendu aussi une représentante associative. En fait, ce chiffre, 6 millions de Français aujourd'hui vivent dans un désert médical. On en parle régulièrement, mais pour le moment, ce n'est pas résolu. Alors, si on regarde les Bouches-du-Rhône, on a un excédent, c'est comme ça qu'on appelle, de 1862 médecins dans les Bouches-du-Rhône, dont 1296 spécialistes, alors que par exemple, il en manque 194 en Dordogne, dont 138 spécialistes. Toute la question est de savoir aujourd'hui, quelle est la bonne mesure? Que faut-il faire? Alors, est-ce qu'on dit, on installe les internes qui pallient ces carences? Ou alors on les salarie. Et de plus en plus de maires, l'Association des maires de France, l'AMF, dit ben nous on se met d'accord avec des départements, on subventionne aussi des maisons de santé, on installe des médecins, ils démarrent entre 2500 euros et 3000 euros net, ça augmente avec l'ancienneté, en plus pour certains médecins on leur donne le mercredi, on leur donne le vendredi, on peut les aider au niveau du secrétariat, ils s'implantent dans des régions où ils n'auraient pas forcément envie d'aller. Et ça marche, ça peut marcher, ça marche par exemple en Saône-et-Loire. Alors, est-ce que c'est la bonne idée ou pas? Celui qui râle, c'est le docteur Marty. Pourquoi? Et vous en parlez au 32-16.
Il n'est pas interdit d'avoir un petit peu de réflexion et d'être un petit peu intelligent, quoi. Quel est le problème qui est face à nous? On avait un territoire qui était couvert par la médecine libérale. Et les médecins sont partis de plein territoire. Et jamais on se pose la question, mais pourquoi ils sont partis ces médecins en fait, quoi? En fait, jamais tu as cette question. Et il n'y a jamais la question non plus, comment je fais pour les faire revenir? Là, on te dit, je modifie le libéral et je les salarie, oubliant que les médecins font 55 heures en moyenne, un salarié c'est 35, qu'ils voient 40 à 50 patients par jour, et les médecins salariés dans les centres de santé voient 2 patients par heure avec une file active de 500 patients par médecin, là où la file active d'un généraliste est plus proche de 1200-1300. Ce qui veut dire que si tu devais salarier tous les médecins, il faudrait le double de médecins et ça coûterait 40 milliards de plus par an à la société. A-t-on les moyens de 40 milliards par an?
Moi, je pense qu'on a l'argent.
Qu'on a davantage les moyens de respecter les médecins en ce qu'ils sont médecins libéraux, c'est-à-dire des entrepreneurs de leur entreprise médicale, qu'il faut les favoriser pour qu'ils puissent salarier leur secrétaire, salarier leur assistant, leur donner de quoi développer cette entreprise. Les rémunérations publiques, hôpital et ville, c'est 11% des dépenses de sécu. Or, toute la sphère santé est sous-rémunéré. À l'hôpital, aide-soignante, infirmière, médecin, comme en médecine de ville. Les politiques ont fait ce choix-là. C'est-à-dire, je veux avoir des médecins partout, mais je veux pas les payer. Mais à un moment, il va falloir qu'ils les payent avec, donc, avec justesse.
Alors, comment on les paye? Alors, d'accord.
Je te réponds.
La consultation, tu la mets à combien?
Je te réponds. Mais tu as un mouvement qui se déclenche, là, en ce moment. Alors, c'est intéressant parce que ce mouvement, il est propulsé par des jeunes médecins femmes. Ce mouvement s'appelle Médecins pour demain et il a une seule revendication, c'est le C à 50 euros, c'est-à-dire au double de sa valeur actuelle.
Alors c'est 23 euros une consultation.
C'est 25 euros. Au plus bas de la moyenne européenne, il n'y a que Malte qui est derrière nous. Alors on peut se dire, mais c'est fou. Sauf que, quand on regarde les mutuelles, les assurances privées, quand tu donnes 100 euros à une mutuelle, elle ne rend même pas 60 euros aux soins. Et 45 euros se barrent en frais de gestion, en publicité, etc. Rendez l'argent, on a envie de leur dire. Première chose pour récupérer. Et ensuite, quand tu finances justement un médecin, tu as des médecins qui s'installent. Comme il y a des médecins qui s'installent, ils voient moins de patients. Donc au final, c'est pas que le médecin gagne plus, c'est qu'il est pour le coup de la possibilité de faire de la qualité. Et j'en termine là-dessus. Quand j'entends les maires qui me disent « Mais les médecins salariés, nous on les paye et puis on les a », je leur dis « Attention, vous les sortez du pool et ceux qui restent en libéral vont devoir se fader de récupérer les patients que les salariés ne voient pas. » Donc c'est pire. Par égoïsme, vous allez augmenter la problématique
non,
de l'accès
aux soins. Non, c'est pas par égoïsme, c'est par urgence qu'ils font
mais
ça.
Par urgence. Ce que je te dis, 55 heures un médecin oui, mais... libéral, on est tous, je vais te dire, on est tous, on parle tous de la crise hospitalière.
Oui, mais si tu veux, les maires, eux, ils se font enguirlander.
Oui, mais
enguirlander par leurs administrés, par les habitants, ils ont le maire. On n'a pas de médecin, je dois faire 40 bornes pour aller voir un médecin.
Tous.
Qu'est-ce qu'on fait? Donc le médecin, il trouve des solutions. Et il leur tend pas le bras,
on le sait tous à tel point.
Tes confrères qui disent, moi je suis content.
J'offre 4000 euros à un maire. Si ce maire me dit « j'ai trop de médecins », trouve-moi un maire en France qui va te dire « j'ai trop de médecins ».
Mais justement, il n'en a pas un. Mais c'est ce que je te dis.
Tu n'as pas un maire. Mais non, mais tu m'as parlé de zone surdotée. Dans une zone surdotée qui te dit « j'ai trop de médecins ».
Ils sont mal répartis à ce moment-là.
Autre mirage, quand on te dit « mais regardez, la responsable de l'association nous disait « c'est la seule profession qui n'est pas régulée ». Oubliant de dire que c'est les pharmaciens qui ont demandé leur régulation. Pourquoi ? Entre les zones surdotées et les zones sous-dotées de pharmaciens, il y avait un rapport de x7. Il y avait 7 fois plus de pharmaciens dans les zones surdotées que sous-dotées. Pour les médecins, les chiffres que tu citais dans les Bouches-du-Rhône, c'est 0,5 la différence. Ça veut dire que tu crois que dans les Bouches-du-Rhône, les gens n'ont pas les délais d'attente? Il y a des médecins, mais il y a les délais d'attente. Pareil.
Oui,
en fait, le problème, il est partout. Parce que c'est tombé 30 années d'échecs politiques et c'est terrifiant. Et c'est les mêmes qui ont installé ça, qui aujourd'hui nous disent, mais allez réparer notre merde. Allez partout. Non. Commencez par honorer les médecins et ils vont s'installer. Et je vous jure qu'on fera le job. Nous, on crève sur la demande de soins. On fait des heures pas possibles. Moi, j'ai ouvert une plage horaire de 7h à 8h le matin pour que les gens qui n'ont pas de médecin en trouvent un quand ils sont sur l'axe Montauban-Toulouse. Elle est tout le temps pleine. Je vous serai 24 heures par jour comme tous mes confrères, ça serait plein. Mais putain, mais respectez ça. Respectez les libéraux et faites qu'ils s'installent. La seule médecine qui peut vous sauver, c'est celle qui existait avant, c'est la médecine libérale. C'est pas le salariat.
Alors.
Je suis parfaitement d'accord avec Jérôme. Je trouve que c'est scandaleux d'imposer aux médecins, qui est une profession libérale par essence, de s'installer dans des déserts médicaux. Je le rappelle, médecine, à mon sens,
La mission première, rappelons que c'est de soigner aussi.
Oui, bien
donc,
sûr.
Voilà, là, il y a des gens qui sont sans soins. Hein.
Non, mais attends, c'est comme si on crachait sur les chirurgiens esthétiques de l'hôpital américain. Mais ils font ce qu'ils veulent, que je sache. Quand on médecine, c'est un des concours les plus difficiles. C'est pas comme avocat où je considère que beaucoup de gens peuvent l'avoir. Médecine, c'est, enfin Jérôme, je pense que tu ne me contrediras pas, une passesse, c'est très dur. Si en plus on se fait 12 ans d'études et qu'on dit non, tu vas pas faire ce que tu veux, tu vas aller travailler dans un lieu où tu n'as pas envie de travailler, mais c'est une atteinte presque à la liberté d'entreprendre. Je trouve que c'est une honte, un scandale. Donc non. Après, j'entends qu'il y a des problèmes de déserts médicaux, mais ça ne peut pas passer par imposer à un médecin de travailler dans un lieu où il n'a pas envie de travailler et d'être salarié. Moi, par exemple, on me dirait soit salarié, je dirais je veux pas, je préfère encore changer de profession. Donc non, je trouve que c'est scandaleux et inadmissible.
Mehdi Ghezzar.
Moi, je pense que le problème est bien plus profond que ça. Le problème est que l'hôpital et le domaine de la santé a toujours été un domaine négligé. On travaillait toujours dans l'urgence. Le système est obsolète depuis à peu près 30 ans, si je ne m'abuse, docteur. Ça fait 30 ans qu'on dit toujours que chaque hiver, ça va être une catastrophe. Que chaque été, il va y avoir des canicules, donc il va y avoir un afflux de personnes âgées qui vont pas avoir de médecins, qui ne vont pas avoir des urgences assez conséquentes. Et en fait, tous les ans, On travaille toujours dans l'urgence. Il n'y a rien qui est planifié, il n'y a rien qui est structuré. Et quand on te parle de déserts médicaux maintenant, ben, je suis désolé, mais c'est le résultat justement de la non-planification justement du système médical dans toute sa splendeur. Il n'y a plus rien qui ne va dans le domaine médical.
Ah, dans le domaine non plus.
Tu parlais du garde des Sceaux tout à l'heure, où tu as fait une remarque très pertinente, où tu as dit jamais le budget du ministère de la Justice n'a été aussi élevé. Excusez-moi, que ça soit l'éducation nationale, la santé ou justement aussi la justice, c'est ces trois budgets qui doivent être les premiers concernés par l'augmentation.
L'éducation nationale, c'est le premier budget.
Ces trois budgets doivent être justement revalorisés. Et la santé, malheureusement, on a perdu, excusez-moi, moi je m'en rappelle, puisque le problème qu'on a, c'est qu'on a tous la mémoire très courte, mais très très courte. On a perdu 1 milliard d'euros par an pour des tests anti-Covid qui ne valaient rien. Où les gens se fallent. Non, mais je suis désolé, je le dis, d'accord? On a perdu pendant presque 12 à 18 mois, la Sécu a payé 1 milliard d'euros par mois, pour des tests Covid qui étaient ramenés de Chine, d'accord? Une fois sur deux, étaient des tests bidons, d'accord?
C'était des tests bidons
qui n'avaient aucune valeur. Des fois, tu allais à la pharmacie, ils te faisaient un test antigénique, ils te disaient positif, tu allais faire et ils te disaient négatif. Donc, la Sécu s'est fait bananer pendant 18 mois. Ça fait 18 milliards d'euros. Je suis désolé. Ces 18 milliards d'euros, s'ils auraient été mieux utilisés, s'ils auraient été donnés, la seule chose qui me fait mal au cœur, c'est que, en fait, on a le pognon. On arrive à le trouver. Il y a la machine à billets qui marche. Il n'y a pas de souci.
Mais ils ne le mettent pas dans les choses où il faut.
Mehdi, juste de réflexion rapide. D'abord, des solutions, il y en a. Mais elles peuvent pas passer par des idées simplistes de la chose. D'abord, aucun désert ne ressemble à notre désert. C'est une empreinte digitale. Le désert lozérien n'est pas le désert que tu vas avoir dans une ville moyenne, ou dans une banlieue difficile ou dans un centre-ville onéreux. Tout ça est différent. Donc il faut mettre autour de la table toutes les forces vives de chaque territoire et trouver pourquoi cette zone-là est devenue un désert. Pourquoi les médecins sont partis? Déjà, ça passe par là. Et ensuite, tu vas commencer à trouver des solutions et ça passe pas que par la santé. Dans la santé, le déterminant santé, c'est 20%. Tout le reste, c'est autre chose. 80%, la nutrition, les machines, tout ça. Et bien là, c'est la voirie, ça peut être le désenclavement, ça peut être l'installation d'industrie, de commerce, etc., qui peuvent relancer le territoire et faire que les médecins s'installent, quoi. Ça, c'est la base du raisonnement, quoi. Ensuite, il y a une chose qu'il faut voir, et là, j'alerte la population en disant extrêmement attention. Je suis pas sûr que les politiques ne veuillent pas ce qui se passe. Je suis pas sûr qu'ils ne veuillent pas un système un petit peu à l'anglaise avec quelques grands hôpitaux qui vont rester, NHS, et puis tout le reste financiarisé. Moi, je vois se développer les grands groupes, les fonds de pension, etc. Eux, ils n'ont qu'une envie, c'est mettre la main sur la ville. Ils sont en train de s'étendre en mettant des centres de santé. Et c'est ça un petit peu le salariat, etc. Et au final, demain, ils rachèteront les hôpitaux périphériques. Oui, mais tu auras une santé privée financiarisée.
Un système américain.
Alors, savoir, c'est toi, le libéral qui te protège par rapport à ça.
C'est un système américain.
Tu vantes le système libéral.
Oui.
D'accord.
Oui.
De l'installation du médecin.
Libéralisme.
Mais c'est pas l'ultra-libéralisme. Non, c'est contradictoire. Et là où t'as une maison de santé qui arrive, et moi je vois dans le quartier où il y a mes parents, il y a la maison de santé qui arrive. C'est très bien.
Je t'explique.
Et c'est disponible 7 sur 7. H24.
Je t'explique la différence. Le fonds de pension est libéral, mais va salarier les médecins. Moi, ce que je veux, c'est le médecin qui soit capitaine de son entreprise et qui, parce qu'il a sa liberté de capitaine, te protège.
Et faire doubler la consultation
qui est lié à une financiarisation qui dit quoi prescrire, etc.
D'accord, mais le capitaine de son entreprise, il veut pas s'installer à tel endroit,
Mais pourquoi il veut pas s'installer à tel endroit?
Mais ça, oui, mais il y a des gens qui veulent être soignés aussi.
D'accord, mais il veut pas s'installer. Liberté individuelle de s'installer à un endroit.
Parce que quand il s'installe, il est marié, il a des gosses souvent. Et la médecine est devenue souvent le deuxième métier du ménage. C'est-à-dire que le conjoint ou la conjointe a un métier encore plus technique que médecin. Va trouver un emploi à quelqu'un qui est ingénieur dans le nucléaire ou ingénieur chez Airbus et autres à la campagne. Extrêmement difficile.
Et une bonne école pour les enfants.
Il n'y a pas d'école souvent pour les enfants. Extrêmement difficile. Il y a un enclavement total. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on réaménage ce territoire. Les politiques ont joué le tout citadin. Ils ont complètement oublié la campagne. Ils ont oublié les villes moyennes.
Et
il est temps de réaménager.
Et avec l'exode du Covid, où tout le monde allait dans les campagnes, non ?
Encore une fois, la seule possibilité qu'ils ont, je suis désolé, il n'y en a pas d'autre. Mais c'est le libéral, parce que le libéral est le seul qui bosse 50 heures par semaine,
oui,
qui voit
merci.
X patients par jour, alors que le salarié en fera moins. Et tu l'as dit toi-même, le centre de santé, posez-vous la question, et ils le disent eux-mêmes, le centre de santé est subventionné, ça nous coûte tant, mais moi je ne suis pas subventionné. Hein. Comment ça se fait qu'il y ait cette différence?
Non, mais tu as raison là-dessus, Jérôme,
On accepte de subventionner. Mais quand le médecin, le salarié sera en vacances pour ses 5 semaines, 6 semaines, qui le remplace?
Il y en aura, si c'est une maison de santé, il y en aura un autre.
Je te dis,
il y a un roulement justement dans les maisons de santé.
Il faut deux fois plus, combien de temps il va falloir pour avoir deux fois plus de médecins? C'est-à-dire là où tu as 55 000 généralistes, il en faudra 130 000. Et les spécialistes, qui parle des déserts de spécialistes? Je suis à Fronton, entre Toulouse et Montauban. Toulouse, on ne peut pas dire désert médical quand même. 1h30 de la mer, 1h30 de la montagne, université, Airbus, etc. Toulouse est un désert dans 10 ans. Moi, quand je prescris, quand je demande une consultation chez un dermato, actuellement, il me faut entre 6 mois et 1 an dans cette zone-là, qui n'est pas un désert. Donc imagine ailleurs. Le désert, et aujourd'hui, c'est la conséquence des politiques. Si j'ai un conseil à leur donner, c'est faites confiance aux médecins, rémunérez-les à l'aune de leurs responsabilités.
50 euros
les salariés,
la consulte.
Comme les libéraux, les salariés comme les libéraux, oui, à 50 euros la consulte,
bah oui.
Mais en faisant jouer les mutuelles.
Là, tu vas faire réagir aux 32 aides,
rendre le pognon aux mutuelles. Tu cotises toute ta vie aux mutuelles et au bout de 18 jours, ils te disent on ne paie plus la chambre seule.
Dans un instant.
C'est une honte.
Vu la difficulté des études, 50 balles, c'est la moindre des choses.
Je vous attends aux 32 sur la consulte.
Vous ne pouvez pas dire que 50 balles, c'est la moindre des choses.
Allez, dans un instant, on en parle avec Guillaume. Il gère une maison de santé. Il est du côté de la Marne. Et si on consulte à 50 balles, ça va faire réagir tout de suite.
RMC, 9h30, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
Les GG, les grandes gueules sur RMC et RMC Story, les grandes gueules avec Mehdi Guézard, Jérôme Marty, Docteur Marty et Sarah Salman qui est avocate. Les grandes gueules tous les jours en direct avec vous au 32-16 bien sûr. On va accueillir Guillaume qui nous appelle de la Marne. Bonjour Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour Guillaume.
Bonjour à tous.
Bonjour. C'est moi qui le dis tout de suite.
Ça marche. Bah, il sait que c'est Sarah.
C'est l'autorité naturelle.
Vous voyez, t'entends. Sarah, ça va devenir une expression. Sarah Salman, forcément.
Alors, Guillaume. Est-ce que monsieur, vous aussi, vous allez me faire de gentils compliments comme mon confrère?
Sûrement. Il peut pas en être autrement, ça.
Alors, dis donc, c'est bon.
Non, mais aujourd'hui, les gens sont sympas, j'en suis surprise.
Alors, allons-y, Guillaume, puisque vous travaillez dans un centre de santé. Est-ce qu'aujourd'hui, salarier les médecins pour pallier les déserts médicaux, ça peut être la bonne solution?
Alors, moi, je pense pas. Alors, ma situation est particulière. Je suis infirmier libéral. Mmh. Je suis co-gérant d'un centre de santé pluridisciplinaire entièrement privé, financé sur nos fonds à nous. Financé sur fonds privés. J'ai donc dans ma maison de santé des cardiologues, des kinés, etc. et 4 médecins généralistes. Mmh. Le vrai souci aujourd'hui, c'est que par exemple, dans notre périmètre immédiat, on a 2 autres médecins généralistes qui n'appartenaient pas à notre maison de santé, qui partent en retraite et qui ne trouvent même pas de repreneur derrière. Oui. Pourtant, on est à Reims, une ville plutôt très attractive, un tissu économique plutôt dynamique, mais on trouve personne. L'intérêt d'avoir des médecins libéraux chez nous, c'est environ 55 heures de travail hebdomadaire. Ouais. C'est une charte commune, ça veut dire une continuité des soins. La médecine générale ne s'arrête pas à 18 heures pour reprendre le vendredi, pour reprendre le lundi matin à 9h. Il y a un système d'astreinte, un système de coopération. Je pense que le docteur Marty connaît ça, le système de CPTS, le système de NSP, enfin voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, le docteur Marty a raison. Si on commence à salarier les médecins, on va diminuer le temps de travail global et donc l'offre médicale globale. Je pense qu'il faut effectivement soutenir largement la pratique libérale, la rendre plus attractive. Et la rendre plus attractive, alors ça passe évidemment par une consultation revalorisée. Moi, je ne serais peut-être pas allé jusqu'à 50 euros, mais je pense que rattraper un peu le retard qu'on a par rapport à nos voisins européens, ce serait pas mal. Ça rendrait la médecine générale beaucoup plus attractive et ça permettrait évidemment une installation plus importante de nos... un choix plus important de nos jeunes étudiants vers la médecine générale. Le souci qu'on a aussi, et qui est majeur, et que moi je rencontre par exemple sur ma maison de santé, c'est qu'aujourd'hui, les médecins généralistes ont des conjoints. Moi, c'est beaucoup de filles, hein, les médecins généralistes. J'ai du mal à recruter des, j'ai du mal à recruter des jeunes hommes.
Ouais, il y a une féminisation de toutes les professions aujourd'hui.
Il y a une féminisation
de toutes
les professions. Alors, ça, c'est le fait d'être en nombre permet une organisation avec un jour de repos par semaine quand elles ont de jeunes enfants, etc., etc. Le souci aujourd'hui, c'est que moi, j'ai un des médecins généralistes, son époux travaille dans la biochimie, un travail assez spécifique. Lui, aujourd'hui, se retrouve sans job jusqu'au juin prochain. Et ça, c'est une vraie question. Je risque de perdre une de mes jeunes associées. Pourquoi? Parce que son époux ne trouve pas de job.
On peut aussi demander au médecin de pas se marier.
On peut aussi demander au médecin, et c'est là où moi, alors il y a une charte chez nous où ils sont un petit peu poussés, c'est du donnant-donnant. Moi, je suis complètement d'accord sur une revalorisation de la consultation. Non, par contre, je pense vraiment qu'il faut demander beaucoup plus, on va dire, aux médecins en termes de continuité des soins, parce que ce qui se passe chez nous n'est pas le cas partout, et parfois même nous, à notre niveau, on est impacté parce qu'on récupère malheureusement de la médecine générale, qui le samedi notamment, qui est une journée pour nous, qui est une journée infernale.
Ouais, je comprends.
Et vous prenez combien quand vous vous déplacez, pardon
Alain? Non, vas-y.
Un infirmier libéral, c'est 2,50€ le déplacement.
Voilà. Non mais, c'est honteux.
Eh oui.
Mais c'est honteux, 12,50€, mais c'est... Et vous payez l'essence en plus.
Et un pansement d'escarre, c'est 7€. Quoi.
Non mais ouais. Ça, c'est juste ça, inadmissible.
Mais alors après...
Oui mais Guillaume, j'entends votre contre-exemple. Guillaume,
non, mais 12,50€.
Si on me permet de... Moi, la cotation des actes, notamment pour les soins infirmiers, je pense qu'ils sont juste mal pensés. Ça, nous, on gagne bien notre vie. Moi, franchement, je suis satisfait de ma situation financière. Je pense juste que dans un objectif de santé publique, il y a certains actes qui devraient être revalorisés et peut-être d'autres, peut-être un petit peu dévalorisés.
Oui, mais Guillaume,
ça éviterait une dérive.
J'entends vos objections, Guillaume, mais et j'entends le raisonnement de Jérôme. Seulement, je pense que la médecine d'il y a 40 ans, la médecine libérale, on la retrouvera pas. Celle avec le médecin qui était connu dans le quartier, le médecin de famille.
Et qui, attendez,
et qui.
Propose un modèle économique novateur.
Voilà.
Moi, mes médecins, ils investissent, ils prennent des parts, on crée quelque
chose. Mais ça, c'est très bien.
Est-ce que c'est pas ça l'avenir? Est-ce que c'est pas ça l'avenir? Est-ce que c'est justement, au lieu d'avoir le tout État à chaque fois pour tout et n'importe quoi?
C'est la médecine.
Est-ce que c'est pas ça l'avenir?
Moi, je collabore avec les services de l'État, avec l'ARS, avec les ACPM. Mais étant mon investisseur propre, j'ai un modèle. Je me sens chef d'entreprise. Là, c'est pas l'infirmier libéral qui vous appelle, c'est chef d'entreprise. Et le chef d'entreprise, quand il s'assoit à la table avec l'ARS et l'ACPM pour développer des projets de santé publique pour lesquels l'ACPM et l'ARS sont prêts à nous rémunérer, j'ai la capacité de dire non, parce que je ne leur ai jamais demandé l'argent pour monter mon entreprise. Moi, j'ai pas besoin d'eux pour rémunérer ma secrétaire. C'est collectivement les fonctions support, on a compris chez nous.
Et vous arrosez, attendez Guillaume, vous arrosez tout le département de la Marne, une bonne partie du département de la Marne.
J'en rêve, mais mon modèle économique peut être transposé à d'autres. Hein, c'est pas un
problème.
Moi, on a un secteur d'action. Aujourd'hui, on a des cardiologues dans notre maison de santé, donc des médecins spécialistes. Ils sont deux. Ben, je peux vous dire que j'ai des patients, qui viennent de Rethel dans les Ardennes. C'est 40 km de chez nous.
Mmh. Oui, mais je comprends que votre modèle, vous le défendez, vous avez raison, il est transposable. Je pense qu'aujourd'hui, la médecine, il n'est pas
subventionné celui-là. Hein.
Oui, d'accord, mais ça va être plusieurs modèles qui vont cohabiter aujourd'hui, Guillaume.
Je suis d'accord avec vous.
Il va rester des libéraux.
Vous savez, j'ai été élu un moment dans ma vie, et dans mon village, j'avais milité pour une implantation d'une maison de santé, mais sur le même modèle économique que le mien, mais à taille beaucoup plus, j'allais dire raisonnable, beaucoup plus petite, parce que le village était plus petit et le périmètre d'intervention était plus petit. Je pense juste qu'il faut. Alors il faut. Pour moi, c'est le fait. Mon modèle économique, ça implique les médecins libéraux. Ça les implique. Ils sont le problème d'un médecin salarié, c'est qu'il peut partir demain. Moi, mes médecins, ils vont pas partir demain parce qu'ils sont actionnaires. Ils sont actionnaires.
Donc
quelque part, ils sont un peu plus tenus. Et je pense que ce que j'ai fait dans la maison de santé du petit village dans lequel j'ai été élu, eh bien, ça fonctionne aussi. Parce qu'ils sont impliqués, ils sont actionnaires, voilà. Et donc forcément, ils sont conscients et ça permet d'assurer une pérennité dans le temps de présence médicale sur ces territoires-là.
Merci Guillaume de cet exemple. Merci d'être intervenu dans les GG, dans les grandes gueules. Mon cher Jérôme, tu t'en doutais qu'avec ta consulte à 50 balles, à 50 euros, t'allais faire réagir au 37.
Moi, je soutiens Jérôme aussi.
Nous sommes avec Lucie qui est médecin. Bonjour Lucie.
Bonjour. Bonjour.
Bonjour Lucie.
Vous avez sauté sur le 32-16, Lucie.
Oui.
Alors allez-y, votre confrère. Votre confrère Marty vous écoute, allez-y.
Ben, en fait, moi je suis médecin généraliste dans un centre municipal de santé. Je suis salariée. Pour vous expliquer un petit peu mon parcours, j'ai d'abord été généraliste pendant 5 ans dans un service d'urgence où j'ai fait les gardes de nuit, les 24 heures, sans dormir, parfois sans manger. Et en fait, j'en étais arrivée à un constat que finalement, si aux urgences c'était engorgé, c'était parce que le maillage en médecin généraliste sur le territoire n'était pas assez suffisant et que du coup, les généralistes ne pouvaient plus faire les urgences en cabinet. Donc là, aujourd'hui, donc je me suis dit que finalement, plutôt que de m'épuiser aux urgences, c'était peut-être plus intéressant d'aller en libéral ou en tout cas en médecine générale, en cabinet. Sauf que au moment où j'ai voulu quitter l'hôpital, moi j'avais un crédit, une petite fille et un mari qui est père au foyer.
Ça coûte cher.
Et ça coûte très cher. Et l'installation en libéral, ça coûte très cher aussi. Ah oui. Et j'étais absolument pas rassurée à l'idée de quitter un emploi salarié avec un salaire qui tombait tous les mois pour avoir, pour ensuite, en plus sur mon territoire, le foncier est très cher. Donc du coup, je pouvais même pas m'acheter un cabinet. J'aurais même pas pu financièrement. C'était pas possible.
Vous êtes devenu salarié, quoi, en fait, c'est ça.
Et du coup, en fait, c'est grâce à la mère de ma ville. Qui est venue me voir, qui a discuté avec moi parce que elle a su que j'étais généraliste et que j'étais à l'hôpital et que j'aurais souhaité m'installer en cabinet, et elle est venue discuter avec moi, elle m'a demandé ce que je voulais et je lui ai dit que j'aurais été plus rassurée d'être salariée, et du coup elle l'a fait, elle s'est mise.
Et combien vous touchez alors en tant que médecin salarié?
Non, ça je peux le dire.
Ah bah si, allons-y, soyons transparents, Lucie. Au moins on a tous les exemples.
Donc, dans mon centre de santé où on est trois, on touche entre 5 500 et 6 000 euros par mois.
Bah net. C'est bien, oui, mais c'est la moindre des choses quand on a fait plus de 10 ans d'études. Oui.
Et vous travaillez combien d'heures? C'est pas du tout, une attaque ou un jugement, c'est juste le système salarié.
Je vais vous expliquer comment on fonctionne, je prends pas ça comme une attaque. Normalement, on doit travailler 35 heures. Moi, après, j'ai été biberonnée à l'urgence. Rassurez-vous, j'arrive bien avant l'heure et je pars bien après l'heure et ça ne me coûte rien.
D'accord, mais du coup, est-ce que vous pensez que pour les autres départements, vous, la Loire-Atlantique, les autres départements, ça peut être la solution justement pour le manque de médecins?
Moi, je pense que ça peut être la solution parce que c'est rassurant. Moi, jamais, je vous le dis aujourd'hui, jamais je ne me serais installée en libéral tellement j'ai la trouille de cette paperasse, de cette lourdeur.
C'est la trouille de l'aléa financier.
Merci.
Je me sentais pas l'âme de devenir une patronne, d'employer quelqu'un, de gérer ses arrêts de travail et tout ça. Honnêtement, grâce à ma mairie, c'est eux qui gèrent les problèmes RH. Eux, ils savent le faire. Moi, je connais pas. Moi, j'ai appris la médecine.
Mais la seule chose, chère consoeur, c'est que ce modèle est valable en micro, mais pas en macro. En micro, il résout les problèmes d'un village, il résout les vôtres parce que, et vous l'avez dit très justement, vous aviez peur de vous installer parce que c'est de fortes charges, etc., et qu'à 25 balles, c'est difficile, et que donc, sortant de la médecine hospitalière et des urgences, etc., vous avez préféré être salarié, mais ce modèle tient avec des subventions, parce qu'à 25 balles l'acte, on ne rembourse pas le salaire chargé. Et donc, on subventionne la chose. Et c'est toute la problématique, elle est double. C'est qu'à la fois, même si vous me dites « je reste bien après les heures » et je suis tout à fait conscient de ça et je le crois, la file active de patients n'est pas la même que celle des généralistes libéraux. Or, on ne peut pas dire « il faut qu'on soit solidaire et qu'on absorbe la demande de soins, tous », et puis dire « on va mettre un système salarié qui verra une file active moins importante » et puis des libéraux qui en voient beaucoup plus. Et les deux, c'est épuisant parce que l'exercice des deux est difficile. Je crois qu'il faut qu'on arrive à relancer les choses. Il faut que les médecins soient mieux rémunérés, qu'ils soient d'ailleurs salariés ou libéraux, mais qu'enfin, dans ce pays, on tienne compte du fait que 11% des dépenses de sécu, c'est les rémunérations, et qu'il faut mettre le paquet là. Après, c'est les prescriptions qui coûtent, c'est les hospitalisations, c'est les transports, c'est l'arrêt de travail, c'est ça qui coûte. C'est pas la rémunération. Putain, mais de grâce, rémunérons nos soignants pour qu'ils s'installent et que la France reparte.
Ben justement, parce que tu parles de rémunération, je suis dans la Saône-et-Loire maintenant qui sont salariés ou rémunérés. Il y a 70 médecins quand même qui ont pu être recrutés en Saône-et-Loire grâce à ce système dont t'as bénéficié, Lucie, aussi.
Mais au prix de subventions et d'une file active moins.
Ben oui, mais si tu veux, là, dans ces cas-là, si tu veux, le français, lui, il est content de voir ses impôts ou ce qu'il paye localement et voit à quoi ça sert.
Je te dis,
j'ai un médecin. Donc là, pour le moment, il paye beaucoup d'impôts.
C'est pour ça, Alain, que je te dis que c'est un micro, oui, mais quand tu regardes un macro, c'est un mensonge.
C'est à Nantes que ça s'est passé. Et honnêtement, que cette dame touche 5500, 6000 euros par mois, ça ne me choque pas du tout.
Moi non plus.
Excuse-moi.
Imposer aux médecins de s'installer dans les déserts médicaux, les salariés, qu'en dites-vous? C'est la question qu'on a posée sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que ça donne, les amis? C'est un oui à 71%. Dans un instant, avec le service politique d'RMC, les indiscrets, que s'est-il passé hier à l'Assemblée nationale? La motion de censure, le coup de théâtre, le RN qui vote la motion de la NUPES, coup de théâtre inutile. On en discute avec les GG. Allez, à tout de suite.
RMC, 9h midi, les grandes gueules.
Alain Marchal, Olivier Truchot.
GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, radio et télé, avec aujourd'hui Mehdi Ghezard, chef d'entreprise, Jérôme Marty, médecin généraliste, l'avocate Sarah Salman. À vous de choisir tout à l'heure à 11h, deux sujets de discussion que l'on a mis en ligne. Vous nous dites celui dont vous voulez que nous parlions ensemble. Un dimanche après-midi sans chasse, le gouvernement y réfléchit, pas de chasse à partir de 14h par exemple. Vous voulez qu'on reparle de la France moche des périphéries commerciales? Là encore, les pouvoirs publics ne veulent plus de ces hangars, de ces centres, de ces panneaux publicitaires qui sont pourtour des villes. Donc vous votez sur internet rmc.fr, on en parle au 32-16. En attendant, c'est l'heure des indiscrets GG.
RMC, les grandes gueules.
Les indiscrets.
Indiscret GG avec Hélène Terzian du service politique d'RMC. Bonjour Hélène.
Bonjour les grandes gueules.
On revient avec vous sur le coup de théâtre à l'Assemblée nationale hier. Le parti de Marine Le Pen, le Rassemblement national, qui vote la motion de censure.
Oui, décidément, cette Assemblée, elle est pleine de surprises. Il était 16h30 hier quand Marine Le Pen est montée à la tribune pour s'exprimer avant le vote. Et contre toute attente, elle annonce donc que son groupe va voter la motion de gauche. Elle prend de court les députés, elle prend de court les journalistes aussi, il faut l'avouer. Parce qu'en fait, depuis plusieurs jours, le groupe entretenait le flou, mais laissait quand même entendre qu'il n'allait pas voter cette motion. À leur décharge, certains députés nous disaient qu'ils allaient quand même lire le texte avant de se prononcer parce que eux, eh bien, ils ne sont pas dogmatiques, disent-ils, contrairement à la NUPES, c'est ce qu'ils nous disent. Et c'est en fait en réunion de groupe, donc juste avant le vote, qu'il a été finalement décidé de le voter. Il s'attendait à lire une tribune anti-policier, pro-immigration. Rien de tout cela, c'est ce qu'ils nous le disent. Et certains députés se sont dit, bien, aucune raison de ne pas voter le texte. Voilà pourquoi Marine Le Pen a dit ça.
En fait, c'est un coup de poker, mais qui a été vraiment réfléchi. Hein.
Alors, exactement. C'est un coup d'épée dans l'eau parce que la motion n'a pas été votée, le gouvernement n'est pas renversé. En revanche, c'est un coup politique, il faut le dire, réussi, un coup de billard à trois bandes. Un, parce que ce vote fragilise le gouvernement et sa majorité relative à l'Assemblée. Deux, parce qu'en votant la motion de gauche, la NUPES se retrouve dans une situation très inconfortable et de fait, et à son insu, associée à l'extrême droite. Et troisième coup de billard, c'est un des objectifs principaux du RN d'ailleurs, c'est mettre le parti LR face à ses contradictions. Les députés LR ne votent aucune des deux motions. Le Rassemblement National veut donc montrer qu'ils sont une sorte de bouée de sauvetage pour le gouvernement, un soutien tacite à Emmanuel Macron. Résultat des courses, c'est Marine Le Pen qui réussit à se positionner comme la leader des oppositions.
Qu'est-ce que vous en pensez alors, Jérôme?
House of Cards.
Bah oui. Que la mauvaise organisation, on va dire, de la REM fait le jeu du Front National, enfin du Rassemblement National. Je suis vieux jeu, moi. J'ai toujours Front National, je ne vois pas de différence entre les deux, mais... Et qu'on a un boulevard pour malheureusement pour ce parti dans les 5 ans qui viennent, quoi, 4 ans qui viennent. C'est ça que ça m'évoque. Après, c'est la même chose, quoi. Alors même que on a une France qui aujourd'hui souffre comme jamais, qu'on a 150 000 entreprises qui vont fermer, qu'on a des TPE, des PME, des artisans qui ne voient pas comment ils vont arriver à boucler leur fin de mois, on perd du temps en motion de censure, etc. Quoi. Je suis désolé, mais la représentation nationale devrait faire bloc là.
Parce que le pays est en train de brûler, là.
Puis motion de censure, vraiment. On savait à l'avance que ça marcherait pas. Il y en a qu'une seule qui a fonctionné en 62, donc ils le savent. Moi, ce qui me gêne, c'est que ça affaiblit vraiment les Républicains. Enfin, Marine Le Pen, c'est une très bonne oratrice et malheureusement, elle arrive à fédérer. Elle a 89 députés. Plus le temps passe, moi, ça m'inquiète. Je me dis, si ça se trouve, elle va finir par passer aux prochaines présidentielles. Donc, ce qui m'ennuie, c'est que
peut-être,
ça affaiblit l'air.
Peut-être avant, si un prochain coup de poker réussit, ce qui risque d'être compliqué sur notre motion de censure, mais qui sait.
Puis qui s'associe à
hier, ça, c'est ça qui a permis ce coup de poker, c'est de montrer que, d'abord, le gouvernement s'est mis à réfléchir sur deux minutes quand même, quand elle annonçait à la tribune qu'elle voterait la motion de la NUPES. Ça a mis, comme le disait l'interdisant, les Républicains, surprise. Genre, attendez, vous êtes dans l'opposition ou vous aidez la majorité finalement.
Mais ça les met en difficulté.
Si vous voulez, si tout le monde est dans l'opposition, ben faisons bloc en tant que bloc d'opposition, faisons chuter le gouvernement et puis voyons ce qui se passe derrière. Sauf que la dynamique, qu'est-ce qui les fait flipper
La dynamique,
elle serait en faveur de Marine Le Pen et que ce serait peut-être plus 89 députés, mais sûrement plus d'une centaine.
Et eux, ils seraient effacés au profit de Marine Le Pen.
Elle veut montrer qu'elle n'a pas peur, son groupe n'a pas peur. Il nous répète à tout va que si demain il y a une dissolution, ils auront encore plus de députés.
Mais je le pense.
RN dans l'Assemblée. Les LR le pensent aussi. Et les LR, eux, ils savent qu'ils en auront
beaucoup moins.
Bah oui, ils iront, bah oui.
Mehdi Ghezard.
De un, ce qui s'est passé hier prouve deux choses. De un, c'est que la dissolution arrive à grands pas, beaucoup plus tôt que...
Ah, tu penses qu'on l'aura, toi?
Oui, moi aussi.
Je l'ai dit depuis le premier jour, Alain est témoin. La dissolution arrive à grands pas, d'accord. Ça, c'est quelque chose qui est sûr. Et la deuxième chose, c'est qu'on voit, et ça me fait mal au cœur de le dire moi, surtout moi, que Marine Le Pen est une très 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 bonne politique. Voilà.
On n'a jamais dit le
contraire. Et il faut savoir une chose, c'est que ce qu'elle a fait hier, c'est pour moi, c'est pas un coup d'épée dans l'eau. Pour moi, c'est un coup de maître, parce qu'en fait, elle a mis tout le monde face à ses contradictions et elle a renvoyé tout le monde au 6 mètres. Et elle est arrivée vraiment en termes de chef de l'opposition. Hier, elle l'a prouvé.
Mais elle sait beaucoup,
mais le problème, c'est qu'elle les a. Voilà, elle sait que ça passera pas, bien évidemment.
Mais qui a eu la main hier et de quoi on parle depuis 24 heures?
C'est un beaucoup.
De Marine Le Pen, du coup de théâtre. Hier, d'ailleurs.
Surtout ne pas croire qu'en 2027, elle sera pas là. Surtout ne pas croire à ça. D'accord? Parce que le Jordan Bardella ou le Louis Alliot, peu importe qui va être président du parti, pour se mettre pour 2027. Hein, parce qu'elle avait dit que 2022, ça allait être son dernier.
Hier, c'était, excusez-moi, moi je prends mes responsabilités en tant que leader de l'opposition, pendant que la NUPES est toujours empêtrée dans leurs histoires autour d'Adrien Quatennens et autres, quoi, si tu veux. Voilà, Marine Le Pen, elle a fait quelque chose qui s'appelle faire de la politique hier.
C'est exactement ça.
Elle est bonne dans ce qu'elle a fait.
Malheureusement, Terzian à suivre. On y va pour le quiz des GG.
En direct du plateau 3 d'RMC, les GG vous présentent le quiz des grandes gueules.
Place à Dallas, à Nelson.
Ma chère Anaïs, bonjour. On y va.
Bonjour les GG, bonjour à tous. Attention, question rapidité. Qui s'est fait entarter hier?
Magnifique.
C'est pas moi en tout cas.
Les GG, c'est roi. La statue de cire. Statue de cire de Charles III, des militants écologistes du groupe Just Stop Oil, celui à l'origine des jets de soupe et de purée sur les tableaux de Van Gogh et de Monet, ont entarté hier l'effigie de cire du roi Charles III au célèbre musée Tussaud de Londres, le musée Grévin anglais. 4 personnes interpellées, des personnes qui exigeaient l'arrêt de l'exploration pétrolière et gazière. Rien ne les arrête. Hein.
Surtout qu'en plus, le prince Charles, c'est toujours positionné, c'est sorti naturellement. Le prince Charles a toujours été ce qu'on appelait le prince écolo. Il a toujours aidé les organisations non gouvernementales, fait beaucoup pour la biodiversité. Alors peut-être, on va peut-être lui reprocher de ne pas en faire assez. Mais je rappelle à nos amis écologistes que l'Écosse en ce moment va peut-être devenir le premier pays complètement décarboné. Ils sont en train d'installer des éoliennes quasiment tout autour de l'Écosse, alors que c'est une puissance pétrolière énorme, mais ils se rendent compte que le pétrole et les énergies fossiles, ça va avoir une fin, et peut-être que d'ici 20 ans, l'Écosse sera un pays qui sera entièrement autonome de manière énergétique décarbonée.
Comme l'Allier. Les GG, tiens, justement, face à ces écolos radicaux, qu'a décidé la direction du musée de Porsche de Wolfsburg en Allemagne, où des militants se sont collés les mains au sol même du musée?
de les laisser 42 heures avant d'appeler la police.
Exactement, bravo Sarah. Vient de les laisser, ça s'est passé mercredi dernier. Le propriétaire des lieux les a ignorés. Il a fermé boutique, laissant la dizaine d'individus sans chauffage ni lumière pendant 42 heures.
Combien ?
42 heures. Colère des activistes à qui rien n'avait été laissé pour faire leur petite ou grosse commission. C'est peut-être un petit problème. L'un de ces activistes dénonce sur Twitter d'ailleurs les risques pour leur santé. Alors tu vas nous dire, Marty, si c'est vrai ou pas, mais rester englué dans une même position peut provoquer des caillots sanguins potentiellement mortels. Pendant 42 heures. Les mains collées au sol, enfin en tout cas sans pouvoir bouger.
Mais il est vraiment pas. Ils ont fermé le musée, ils sont barrés, ils les ont laissés 42 heures, donc ils ont fait leurs besoins sous eux.
Non, c'est surtout.
Et ils sont restés la main collée, quoi.
Il est sans boire, sans manger.
Ouais. S'ils sont en appui toujours sur la même zone du corps, ils peuvent même créer ce qu'on appelle une rhabdomyolyse, quoi. C'est-à-dire une destruction avec une utilisation à la clé dans un second temps, quoi.
Une paralysie.
C'est une petite surface sur les mêmes, mais ça peut quand même avoir des conséquences néfastes, ouais.
Si jamais vous voulez venir vous coller les mains dans le garage de Mehdi, sachez que c'est pas à 42 heures, c'est une semaine qu'il vous laisse dans le garage. Déjà, vous ne pourrez pas rentrer dans le garage.
Si j'y suis jamais, donc j'ai aucun souci pour ça.
Les GG, minute grammaire.
Minute grammaire.
Minute grammaire. De quel verbe provient le participe passé issu ? Être issu de. Ce n'est pas un adjectif, c'est un participe passé. Mais de quel verbe ?
Être issu, ça vient d'un verbe. Provenir.
Mais non. C'était génial. Eh ben c'est. Ben je savais que j'allais vous coincer là-dessus. J'ai vu passer ça hier sur Twitter. C'est une rareté de la langue française. Le verbe issir.
Ah ouais. Non.
Le verbe issir qui veut dire.
Comme les moteurs des Ferrari la semaine dernière, m'a fait des moteurs de
personne. Écoute, Mehdi, personne ne le sait, mais le verbe issir ne s'utilise qu'au participe passé, c'est-à-dire jis, tu hisses. I2SE n'existe pas. C'est une rareté, effectivement, une spécificité de la langue française. J'étais à peu près sûre de vous apprendre quelque chose.
Oui, là, le verbe issir, alors. Issir. C'est ça. D'accord.
Je ne rappelle pas, elle m'a sorti des moteurs de 64, 1963.
C'est un quiz. L'idée, c'est que ce soit un petit peu dur de temps en temps. Les GG, vrai ou faux, les propriétaires d'Airbnb vont pouvoir installer des mouchards pour savoir si oui ou non c'est la fiesta chez eux.
Oui, vrai.
Ouais, c'est vrai. La plateforme de location vient d'annoncer la mise en place d'un détecteur de bruit pour les propriétaires qui le souhaitent. Histoire de fliquer en permanence le volume sonore des locataires, les proprios pourront vérifier le volume sonore directement sur leur smartphone et même savoir combien de personnes se trouvent dans leur logement. Ils pourront donc du coup contacter directement les fautifs via la messagerie d'Airbnb et potentiellement gâcher la fiesta.
Bah, c'est la moindre des choses quand même, parce que vu les vidéos qui ont tourné souvent sur les réseaux sociaux de gens qui ont...
Je trouve pas que c'est un peu une atteinte à la vie privée quand même.
Bah, c'est, y a pas d'enregistrement. Non, c'est au bon vouloir, bien sûr, aux locataires.
Il y a le consentement quand même.
Oui, il y a le consentement. Oui. En tout cas, ils sont avertis. Les locataires.
Bah, c'est la moindre des choses de demander, parce que il y a le nombre de vidéos qu'on a vues sur les réseaux sociaux de gens qui avaient loué des Airbnb et tu les vois faire la fête et tu te dis mon Dieu, ils partent à la fin du week-end ou quoi. Dans quel état le propriétaire va retrouver son logement?
Il y a des gens qui ont retrouvé leur logement dans des états déplorables. Hein,
Pendant le confinement, moi j'ai un copain à moi qui a fait 140 000 euros. Il a porté plainte, 140 000 euros de travaux. Il est en procès avec Airbnb. Jusqu'à maintenant, d'ailleurs, ils lui ont fait une fête de dingue dans une maison à lui, mais de fou. Ils ont même cassé la cuisine à l'intérieur, puisqu'il y avait, je crois, 400 personnes chez lui ou 350 personnes chez lui.
Il avait un grand appart.
C'est une maison. Ils lui ont massacré sa baraque. 140 000 euros de travaux.
Ouais, tu m'étonnes. Ouais.
Pendant le confinement. Ils lui ont tabassé sa baraque. Mais vraiment.
Merci Anaïs Sainz. À suivre maintenant dans les GG. De quel sujet voulez-vous que l'on parle dimanche après-midi sans chasse? On arrête la chasse à partir de 14h. Bonne idée ou pas? La France moche des périphéries. Si je me file, j'ai regardé vite fait les réseaux sociaux. Je crois que c'est de la chasse. Donc vous voulez qu'on parle ensemble au 32-16. Et puis après, à 11h20, le GG 7 et match autour du permis des seniors, avec un accident qui implique une personne de plus de 80 ans. Faut-il faire repasser le permis à partir d'un certain âge? Lequel? 70, 75 ans ou 80 ans? À vous de nous le dire. Oui pour Jérôme, non pour Sarah et Mehdi. Et on vous attend au 32-16 aussi.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules.